Chapitre 7. La main de Dieu. C'est chose bien malaisée quand on n'y fut pas que de reconstituer une bataille, et même quand on y fut, surtout lorsqu'elle se déroule aussi confusément que celle de Maupertuis. Elle me fut contée quelques heures après de 20 façons différentes, chacun ne la jugeant que de sa place et ne prenant pour important que ce qu'il avait fait. Particulièrement les battus, qui, à les entendre, ne l'eussent jamais été sans la faute de leurs voisins, lesquels en disaient tout autant. Ce qui ne peut être mis en doute, c'est que, aussitôt après mon départ du camp français, les deux maréchaux se prirent de bec. Le connétable, duc d'Athènes, ayant demandé au roi s'il lui plaisait d'ouïr son conseil, lui dit à peu près ceci. « Sire, si vous voulez vraiment que les Anglais se rendent à votre merci, que ne les laissez-vous s'épuiser par défaut de vivre ? Car leur position est forte, mais ils ne la soutiendront guère quand ils auront le corps faible. Ils sont de toutes parts encerclés, et s'ils tentent sortie par la seule issue où nous pouvons nous-mêmes les forcer, nous les écraserons sans peine. Puisque nous avons attendu une journée, que nous pouvons-nous attendre encore une ou deux autres, d'autant qu'à chaque moment nous nous grossirons des retardataires qui rejoignent ? » Et le maréchal de Clermont d'appuyer. « Le connétable dit bien, un peu d'attente nous donne tout à gagner et rien à perdre. » C'est alors que le maréchal d'Audrehem s'emporta. « Atermoyer, toujours atermoyer, on devrait en avoir terminé depuis la veille au soir. Vous ferez tant que vous finirez par les laisser échapper, comme souvent il advint. Regardez-les qui bougent. Ils descendent vers nous pour se fortifier plus bas et se ménager aux fuites. On dirait clairement que vous n'avez pas grand hâte de vous battre et qu'il vous peine de voir les Anglais de si près. » La querelle des maréchaux, il fallait bien qu'elle éclatât. Mais était-ce le moment le mieux choisi ? Clermont n'était pas homme à prendre si gros outrage en plein visage. Il renvoya comme à la paume « Vous ne serez point si hardi aujourd'hui, Audrehem, que vous mettiez le museau de votre cheval au cul du mien. » Là-dessus, il rejoint les chevaliers qu'il doit entraîner à l'assaut, se fait hisser en selle et donne de lui-même l'ordre d'attaquer. Audrehem l'imite aussitôt et avant que le roi n'ait rien dit, ni le connétable rien commandé, voici la charge lancée, non point groupée comme il en avait été décidé, mais en deux escadrons séparés qui semblent moins se soucier de rompre l'ennemi que de se distancer ou de se poursuivre. Le connétable à son tour demande son destrier et s'élance, cherchant à les rameuter. Alors le roi fait crier l'attaque pour toutes les bannières, et tous les hommes d'armes, à pied, pataux, alourdis des 50 ou 60 livres de fer qu'ils ont sur le dos, commencent à s'avancer dans les champs vers le chemin pentu où déjà la cavalerie s'engouffre. 500 pas à franchir. Là-haut, le prince de Galles, quand il a vu la charge française s'ébranler, s'est écrié. « Mes beaux seigneurs, nous sommes petit nombre, mais ne vous en effrayez pas. La vertu ni la victoire ne vont forcément à grand peuple, mais là où Dieu veut les envoyer. Si nous sommes déconfits, nous n'en aurons point de blâme, et si la journée est pour nous, nous serons les plus honorés du monde. » Déjà la terre tremblait au pied de la colline. Les archers gallois se tenaient genoux en terre derrière leurs pieux pointus. Et les premières flèches se mirent à siffler. Tout d'abord, le maréchal de Clermont fonça sur la bannière de Salisbury, se ruant dans la haie pour s'y faire brèche. Une pluie de flèches brisa sa charge. Ce fut une tombée atroce, au dire de ceux qui en ont échappé. Les chevaux qui n'avaient pas été atteints allaient s'empaler sur les pieux pointus des archers gallois. De derrière la palissade, les coutillers et bidots surgissaient avec leurs godendards, ces terribles armes à trois fins dont le croc saisit le chevalier par la chemise de maille et parfois par la chair pour le jeter à bas de sa monture, dont la pointe disjoint la cuirasse à laine ou à l'aisselle quand l'homme est à terre, dont le croissant, enfin, sert à fendre le haume. Le maréchal de Clermont fut des premiers tués, et presque personne d'entre les siens ne put vraiment entamer la position anglaise. Tous défaits dans le passage conseillé par Eustache de Ribemont. Au lieu de se porter au secours de Clermont, Audrehem avait voulu le distancer en suivant le cours du Miosson pour tourner les Anglais. Il était venu donner sur les troupes du comte de Warwick, dont les archers ne lui firent pas meilleure partie. On devait vite apprendre qu'Audrehem était blessé et prisonnier. Du duc d'Athènes, on ne savait rien. Il avait disparu dans la mêlée. L'armée avait, en quelques moments, vu disparaître ses trois chefs. Mauvais début. Mais cela ne faisait que 300 hommes tués ou repoussés sur 25 000 qui avançaient pas à pas. Le roi était remonté à cheval pour dominer ce champ d'armure qui marchait lentement. Alors se produisit un étrange remous. Les rescapés de la charge Clermont déboulant d'entre les deux haies meurtrières, leurs chevaux emportés, eux-mêmes hors de sens et incapables de freiner leur monture, vinrent donner dans la première bataille, celle du duc d'Orléans, renversant comme des pièces d'échecs leurs compagnons qui s'en venaient à pied, péniblement. Bon, ils n'en renversèrent pas beaucoup, 30 ou 50 peut-être, mais qui dans leur chute en chavirèrent le double. Du coup, voici la panique dans la bannière d'Orléans. Les premiers rangs, voulant se garer des chocs, reculent en désordre. Ceux de derrière ne savent pas pourquoi les premiers refluent ni sous quelle poussée, et la déroute s'empare en quelques moments d'une bataille de près de 6 000 hommes. Combattre à pied n'est pas leur habitude, sinon en champ clos, un contre un. Là, pesants comme ils sont, peinant à se déplacer, la vue rétrécie sous leur bassinet, ils s'imaginent déjà perdus sans recours. Et tous se jettent à fuir, alors qu'ils sont encore bien loin de portée du premier ennemi. C'est une chose merveilleuse qu'une armée qui se repousse elle-même. Les troupes du duc d'Orléans et le duc lui-même cédèrent ainsi un terrain que nul ne leur disputait, quelques bataillons allant chercher refuge derrière la bataille du roi, mais la plupart courant droit, si l'on peut dire courir, aux chevaux tenus par les varlets, alors que rien d'autre en vérité ne talonnait tous ces fiers hommes que la peur qu'ils s'inspiraient à eux-mêmes. Et de se faire hisser en selle pour détaler aussitôt, certains partant pliés comme des tapis en travers de leur monture, qui n'étaient pas parvenus à enfourcher, et disparaissant à travers le pays. La main de Dieu, ne peut-on s'empêcher de penser, n'est-ce pas, Archambault? Et seuls les mécréants oseraient en sourire. La bataille du Dauphin, elle aussi, s'était portée en avant. « Montjoie, Saint-Denis !» et n'ayant reçu aucun retour ni reflux, poursuivit son progrès. Les premiers rangs, haletant déjà de leur marche, s'engagèrent entre les mêmes haies qui avaient été funestes à Clermont, butant sur les chevaux et les hommes abattus là, un petit moment fait. Ils furent accueillis par de mêmes nuées de flèches, tirées de derrière les palissades. Il y eut grand bruit de glaives heurtées et de cris de fureur ou de douleur. Le goulot étant fort étroit, très peu se trouvaient au choc, tous les autres derrière eux pressés et ne se pouvant plus mouvoir. Jean de Landas, Voudenay, le sire Guichard aussi, se tenaient, comme ils en avaient l'ordre, autour du Dauphin, lequel aurait été bien en peine, et ses frères de Poitiers et de Berry comme lui, de bouger ou de commander aucun mouvement. Et puis, encore une fois, à travers les fentes d'un aume, quand on est à pied avec plusieurs centaines de cuirasses devant soi, le regard n'a guère de champ. À peine le Dauphin voyait-il plus loin que sa bannière, tenue par le chevalier Tristan de Maignelet. Quand les chevaliers du comte de Warwick, ceux-là qui avaient fait Audrehem prisonnier, fondirent à cheval sur le flanc de la bataille du Dauphin, il fut trop tard pour se disposer à soutenir charge. C'était bien le comble. Ces Anglais, qui si volontiers se battaient à pied et en avaient tiré leur renommée, s'étaient remis en selle dès lors qu'ils avaient vu leurs ennemis venant à l'attaque démontée. Sans avoir à être bien nombreux, ils produisirent la même carambole, mais plus durement, dans le corps de bataille du Dauphin que celle qui s'était faite toute seule parmi les gens du duc d'Orléans. Et avec plus de confusion encore. « Gardez-vous ! Gardez-vous » criait-on aux trois fils du roi. Les chevaliers de Warwick poussaient vers la bannière du Dauphin, lequel Dauphin avait laissé choir sa courte lance et peinait, bousculé par les siens, à seulement soutenir son épée. Ce fut Voudenay ou bien Guichard, on ne sait pas trop, qui le tira par le bras en lui hurlant « Suivez-nous, vous devez vous retraire, monseigneur !» Encore fallait-il pouvoir. Le Dauphin vit le pauvre Tristan de Maignelet navré au sol, le sang lui fuyant de la gorgière comme d'un pot fêlé et coulant sur la bannière aux armes de Normandie et du Dauphiné. Et cela, je le crains, lui donna de l'ardeur à filer. Landas et Voudenay lui ouvraient chemin dans leur propre rang. Ses deux frères le suivaient, pressés par Saint-Venant. Qu'il se soit tiré de ce mauvais pas, il n'y a là rien à redire, et l'on ne doit que louer ceux qui l'y ont aidé. Ils avaient mission de le conduire et protéger. Ils ne pouvaient laisser les fils de France, et surtout le premier, aux mains de l'ennemi. Tout cela est bon. Que le Dauphin soit allé aux chevaux ou qu'on ait appelé son cheval à lui et qu'il y soit remonté et que ses compagnons en aient fait de même, cela est juste encore puisqu'il venait d'être bousculé par gens à cheval. Mais que le Dauphin alors, sans regarder en arrière, s'en soit allé d'un roi de galop, quittant le champ du combat, tout comme son oncle d'Orléans un moment auparavant, il sera malaisé de jamais faire tenir cela pour une conduite honorable. Ah, les chevaliers de l'étoile, ce n'était pas leur journée. Saint-Venant, qui est vieux et dévoué serviteur de la couronne, assurera toujours que ce fut lui qui prit la décision d'éloigner le dauphin, qu'il avait déjà pu juger que la bataille du roi était mal en point, que l'héritier du trône commis à sa garde devait coûte que coûte être sauvé, et qu'il lui fallut insister fortement et presque ordonner au dauphin d'avoir à partir, et il soutiendra cela au dauphin lui-même. Brave Saint-Venant. D'autres, hélas, ont la langue moins discrète. Les hommes de la bataille du Dauphin, voyant celui-ci s'éloigner, ne furent pas longs à se débander et s'enfuirent à leurs chevaux, eux aussi, criant à la retraite générale. Le Dauphin courut une grande lieue comme il était parti. Alors, le jugeant assez en sécurité, Voudenay, Landas et Guichard lui annoncèrent qu'ils s'en retournaient se battre. Il ne leur répondit rien. Et que leur aurait-il dit ? « Vous repartez à l'engagement, moi je m'en écarte, je vous fais mon compliment et mon salut. » Saint-Venant voulait également s'en retourner, mais il fallait bien que quelqu'un restât avec le dauphin, et les autres lui en firent obligation, comme aux plus vieux et aux plus sages. Ainsi, Saint-Venant, avec une petite escorte qui se grossit vite d'ailleurs, de fuyards tout affolés qu'il rencontrait, conduisit le dauphin s'enfermer dans le gros château de Chauvigny. Et là, paraît-il, quand ils furent arrivés, le dauphin eut peine à retirer son gantelet, tant sa main droite était gonflée, toute violette. Et on le vit pleurer.